Chapitre 9. Les passagers du temps. L'avenir, fantôme aux mains vides, qui promet tout et qui n'a rien. Victor Hugo. New York, 2010. Meatpacking District, un quart d'heure plus tard. Un froid vif congelait les quais de l'Hudson. Emma claqua la portière du taxi. Un souffle glacé l'accueillit dès sa descente de voiture. Frigorifiée, elle enfonça les mains dans les poches de son manteau. En cette fin d'après-midi, l'ancien quartier des abattoirs était plongé dans le brouillard. Elle resserra son écharpe et franchit l'arche d'acier qui menait au Pier 54, l'embarcadère historique des paquebots transatlantiques, le lieu où Romuald lui avait donné rendez-vous. Un bruit de moteur lui fit lever la tête et elle découvrit une véritable escadrille composée d'une vingtaine d'hélicoptères miniatures et d'avions radiocommandés qui virevoltaient dans un ciel de neige. Éparpillés le long de la jetée goudronnée, des hommes de tout âge rivalisaient d'habileté pour piloter leurs engins. Elle chercha des yeux Romuald et mit plusieurs secondes avant de le reconnaître. En mitouflé dans une épaisse parka, l'adolescent portait un bonnet de ski qui lui couvrait les oreilles et lui descendait jusqu'aux sourcils. Il essayait de faire décoller son appareil, un engin à quatre hélices qui restait désespérément cloué au sol. « Salut, tête de blatte !» lança-t-elle en s'approchant par derrière. Il sursauta et réajusta ses lunettes. « Bonjour, mademoiselle Levenstein. On est où, là? À la réunion des geeks anonymes amateurs d'aéromodélisme ?»«
Ce sont des drones, » expliqua l'adolescent.
« Quoi ?»«
Ces petits appareils, ce sont des drones civils. »
Fascinée, Emma suivit du regard l'un des quadricoptères miniatures qui s'éleva très haut à la manière des cerfs-volants de son enfance, avant de placer une accélération et de fondre sur la jetée. Elle nota qu'aucun des engins radiocommandés n'avait la même apparence. Avion, hélicoptère à quatre ou six rotors, objet en forme de soucoupe volante. Des ovnis artisanaux assemblés par une communauté de bricoleurs et de passionnés. Elle s'imagina ces gens dans leur garage. Des informaticiens, des fans de robotique, attelés à souder des composants électroniques et des pièces détachées pour customiser leur engin avant de sortir le tester devant leurs copains. De vrais gosses. Elle passa d'un groupe à un autre et constata que la plupart des pilotes avaient couplé leur drone avec leur smartphone pour commander leur engin depuis leur terminal mobile. Certains embarquaient même des caméras ultra-légères qui filmaient et envoyaient les images directement sur l'écran du téléphone. Elle revint vers Romuald qui se débattait toujours avec son quadricoptère. Personne ne se dévouait pour l'aider. Aucune belle âme parmi la communauté pour lui donner un coup de main. En l'observant, elle eut de la peine pour lui. Elle le devinait solitaire, intelligent, un peu paumé. Comme moi.
Pourquoi il ne vole pas le tien ?
Je ne sais pas, répondit-il, l'air inquiet. Il y a trop de vent, je n'ai pas fait le bon réglage.
Ce n'est pas grave.
Si, répondit-il en baissant les yeux. Emma pressentait qu'il était sans doute inhabituel pour lui d'être mis en difficulté sur ses connaissances en mécanique ou en informatique. Elle changea de sujet.
« C'est illégal au moins, ces trucs ? »
demanda-t-elle, partagée entre admiration et inquiétude.
« Les drones ? » ?»«
Plus ou moins, dit-il en reniflant. Il y a quelques règles à respecter. Ne pas survoler d'êtres humains, maintenir son appareil dans son champ de vision, ne pas voler plus haut qu'une centaine de mètres. »
Elle hocha la tête, surprise que ce type de technologie ne soit pas réservé aux militaires ou aux laboratoires de recherche. Qu'est-ce qui empêchait les gens d'utiliser ces drones pour espionner leurs voisins ou survoler des lieux privés? Son côté parano se réveilla brusquement et elle imagina la prochaine étape. Des drones miniatures de la taille d'un insecte qui pourraient en toute discrétion filmer les gens dans leur intimité et enregistrer leurs conversations. Un monde de surveillance généralisée. Le genre de monde, en tout cas, dans lequel elle ne voulait pas vivre. Elle chassa cette idée et regarda vers le nord. Plus loin, bien au-dessus des quais, serpentait la structure d'acier et de béton de la High Line new-yorkaise, au pied de laquelle se trouvait le café Novoski, où on pouvait boire le meilleur chocolat chaud de la ville.
« Bon, remballe ton matériel, » ordonna-t-elle à Romuald. « Je t'offre un bon goûter. »
Café Novoski. 10 minutes plus tard. Romuald engloutit un imposant morceau de strudel aux cerises accompagné d'une rasade de chocolat chaud.
Rassure-moi, tu t'es nourri ces 3 derniers jours ?
L'adolescent hocha la tête avant d'avaler l'autre moitié du gâteau.
Un jour, je t'apprendrai à manger de façon élégante devant une jeune femme, promit-elle en essuyant avec une serviette en papier des miettes de pâtisserie restées collées à la commissure des lèvres du gamin.
Il baissa les yeux comme il en avait souvent l'habitude et tira sur le bas de son pullover comme pour faire disparaître ses rondeurs.
Elle s'inquiéta pour lui.
Où habites-tu, Romuald ?
À l'auberge de jeunesse de Chelsea.
Tu as donné de tes nouvelles à tes parents récemment ?
Vous en faites pas, éluda-t-il.
Si, justement, je m'en fais un peu pour toi. Tu as de l'argent au moins ?
Suffisamment, assura-t-il.
Il se frotta les cheveux avec nervosité et s'empressa d'amener la conversation sur autre chose.
Pourquoi souhaitiez-vous me voir ?
Je voudrais que tu examines mon ordinateur, demanda-t-elle en sortant le portable de son sac pour le poser devant l'adolescent.
Romuald but une nouvelle gorgée de cacao avant de soulever l'écran qui s'ouvrit sur le logiciel de messagerie.
Quel est le problème ?
Je reçois des mails bizarres depuis quelque temps. Tu pourrais identifier leur origine ?
Normalement, c'est pas très compliqué, confirma le jeune homme.
Elle le mit au défi.
Ok, montre-moi ce que tu sais faire. Ça concerne toute ma correspondance avec Matthew Shapiro.
Avec célérité, Romuald sélectionna les messages envoyés par Shapiro et les isola dans un dossier. Procédant par ordre chronologique, il ouvrit l'entête développée du premier mail, passant en revue l'adresse IP de l'expéditeur, le type de messagerie utilisée et la séquence des différents serveurs traversés par le courrier depuis son envoi jusqu'à sa réception. En théorie, rien n'était plus facile que de remonter à la source d'un email, sauf que, dans le cas présent, quelque chose clochait. Une expression de contrariété se peignit sur le visage de Romuald. Il retira ses lunettes au verre sale pour les essuyer avec un pan de son pullover.
Excédé, Emma lui arracha la paire des mains, chercha dans son sac une lingette optique, nettoya les verres et les replaça sur le nez de l'adolescent.
« Alors ? » s'impatienta-t-elle.
Sans répondre à la question, Romuald s'empressa d'ouvrir un deuxième message auquel il appliqua le même traitement, puis continua avec un troisième courrier. Une des réponses qu'Emma avait faites à Matthew.
« Ohé, tu trouves quelque chose, tête de blatte ?»«
Les dates ?» murmura Romuald. « On dirait que ce mec vous envoie des messages du futur. »«
Oui, j'avais remarqué, merci. Comment tu l'expliques ?»
Il secoua la tête.
« Justement, je ne l'explique pas.
Fais un effort, s'il te plaît. »
Romuald sélectionna l'un des messages de Matthew, puis, d'un clic sur le pavé tactile, ouvrit la zone masquée de l'entête.
Sur le net, les échanges de données se font entre 2 adresses IP, ok ?
Emma approuva de la tête. Le jeune Français continua.
D'un ordinateur à un autre, le même message peut transiter par plusieurs serveurs intermédiaires qui horodatent chaque passage.
Emma se rapprocha.
Sur l'écran, on pouvait suivre le trajet de l'email depuis l'ordinateur de Matthew jusqu'à son propre ordinateur.
Lorsque ce type vous envoie un message, reprit Romuald. Les premiers serveurs apparaissent tous avec la date 2011, puis, soudain, au beau milieu du trajet, l'un des serveurs fait une sorte de saut temporel pour passer en 2010. Et le phénomène inverse se produit lorsque c'est vous qui lui écrivez.
Il doit bien y avoir une explication rationnelle, appuya-t-elle.
Dans ton milieu, tu n'as jamais entendu parler d'un truc dans le même genre, sur des forums, dans des discussions entre hackers ?
Romuald secoua la tête. Il laissa passer quelques secondes avant d'ajouter
« Cette histoire de date n'est pas la seule chose troublante. »
« C'est-à-dire ?»
Il pointa l'écran avec son index.
« Dans les 2 cas, la source et le point d'arrivée du message sont identiques, comme si le mail partait en 2011 pour arriver en 2010 sur le même ordinateur. »
Romuald mesura l'effet dévastateur de cette révélation. Le visage d'Emma blêmit et elle eut un mouvement de recul. Se voulant rassurant, il promit de faire d'autres recherches et de demander de l'aide à des gens plus compétents. Il venait d'achever son offre de service lorsqu'un tintement mélodieux annonça l'arrivée d'un nouveau courrier électronique.
Emma tourna l'écran de son côté. Comme elle le redoutait, c'était un nouveau message de Matthew.
De Matthew Shapiro à Emma Lovenstein. objet, le prix du silence. Emma, je peine à interpréter votre silence. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas envie d'en savoir plus sur ce qui nous arrive, de découvrir ce qu'il nous est permis de faire ou ne pas faire. Je peux comprendre vos peurs, mais la curiosité devrait les transcender. Peut-être avez-vous encore besoin d'autre chose pour vous décider à franchir le pas ? Que voulez-vous ? Une nouvelle preuve ? De l'argent ? Voici les deux, si j'ose dire. S'il vous plaît, répondez-moi. Matt. Une pièce jointe était annexée au message. Le fichier PDF d'un article du New York Times daté du lundi 23 décembre 2010. Une touriste suédoise gagne 5 millions de dollars au casino le jour de son 100e anniversaire. Une touriste chanceuse a remporté dans la nuit de samedi à dimanche plus de 5 millions de dollars, 5 023 466 exactement, sur une machine à sous Little Mermaid du casino de l'hôtel New Blenheim à Atlantic City. Une somme rondelette gagnée le jour même de son 100e anniversaire. Originaire de Stockholm, Madame Lina Nordqvist faisait partie d'un groupe de retraités suédois qui participait à un voyage organisé dans le nord-est des États-Unis. La gagnante a raconté qu'elle avait misé 2 dollars dans la fente du Bandit Manchot vers 20h45. Applaudie par toute la salle de jeu du New Blenheim, Madame Nordqvist a confié qu'elle allait utiliser une bonne partie de cet argent pour réaliser son rêve, effectuer avec son mari un tour du monde en montgolfière. Sur la photo illustrant l'article, on pouvait voir l'extravagante centenaire posée près des machines à sous en s'agrippant à un déambulateur. Elle était vêtue d'un sweatshirt « I love Stockholm » et portait une sorte de chapeau de paille. Emma regarda sa montre. 17h30. Elle n'avait guère plus de 3 heures pour agir. Il fallait faire vite. Elle ne pouvait pas rester dans l'indécision plus longtemps. Il fallait qu'elle sache, définitivement. Tu sais où on peut louer une voiture dans le coin, Romuald ? Je crois qu'il y a un fast car à 300 mètres, à l'intersection de Gansworth et de Greenwich. Je vois où c'est, assura-t-elle en abandonnant sur la table un billet de 20 dollars. Elle se leva et boutonna son manteau avant d'affronter le froid. Merci pour ton aide, Romuald. Prends soin de toi. Je vous appelle si je trouve quelque chose. Faites attention quand même. Elle sortit du café en lui adressant un signe de la main à travers la vitre.